Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Omniprésent jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le chapeau, accessoire de mode, était aussi un véritable marqueur social. De la naissance jusqu'au deuil, il a accompagné la vie des hommes de toute classe, de tout milieu, de toute civilisation. Il a beaucoup évolué au fil des siècles, en taille, en volume, en matière, au gré des usages et des fonctions. Il méritait bien, en tout cas, un coup de chapeau, et c'est chose faite depuis 40 ans à Chazelles-sur-Lyon, au musée atelier du chapeau où nous nous sommes rendus pour une visite guidée. Et je suis avec
Yvan Perreton, directeur de l'atelier musée du chapeau à Chazelles.
Sur le site d'une ancienne usine.
Voilà, tout à fait. Donc ici, Chazelles, c'était la capitale historique du chapeau. Il y a eu jusqu'à 28 usines et on est dans une des plus importantes de l'époque. C'est l'usine Fléchet. Et il y a eu jusqu'à 600 ouvriers dans cette usine, bon, qui a eu une période faste dans l'entre-deux-guerres, des années 20, les années 30, qui date de 1902 et qui a fermé en 1976. Chazelles, c'est une petite ville des monts du Lyonnais, et donc qui a connu un développement industriel grâce à la fabrication du chapeau en feutre de poil de lapin, qui est une particularité de feutre.
Alors on va faire le tour.
Donc là, tous les visiteurs viennent ici et puis on fait des visites guidées. Donc toutes les visites sont guidées pour la fabrication, c'est-à-dire la partie technique, ce qu'on appelle, où on présente la fabrication du chapeau à partir du poil de lapin.
Parce que donc ça, c'est vraiment une spécialité.
Voilà, bah sinon le plus courant, si vous voulez, c'est le feutre de laine. Donc en fait, le feutre de laine, c'est ce qu'on a plus couramment sur les chapeaux. Et le feutre de poil, c'est le feutre plutôt haut de gamme, en fait, où on a des qualités à la fois de texture, de finesse, qu'on n'aura pas avec la laine.
C'est une maison connue, la maison Fléchet.
Ah ben tout à fait, c'était une marque, je dis c'était, mais elle existe encore aujourd'hui. C'était une marque de renom, effectivement, à l'égal de Borsalino, pour donner un petit peu un point de repère avec l'Italie.
Oui, à la grande époque où tout le monde portait un chapeau, nous le voyons ici à l'entrée sur les photos.
Vous avez vu, il y a une belle photo qui est en fait une photo de champ de course où on voit donc une foule chapeautée. Il n'y a aucune personne sans chapeau.
Hommes et femmes.
Hommes et femmes, tout à fait. C'est une photo du début du XXe siècle.
Il faut dire qu'à cette époque, ne pas porter deux chapeaux était impensable, Philippe.
Oh bah c'est sûr, parce que mettre un chapeau, c'était refléter son statut social, son identité culturelle, sa personnalité, ses goûts. Et bien sûr, c'était à la mode.
Oui, c'était aussi une marque de respect. Une marque de respect, sans parler de son utilité au chapeau, bien sûr, en cas de pluie, en cas de vent, on le verra. Il existe une très grande variété de couvre-chefs, comme on dit, qui répondaient vraiment à tous les besoins et à toutes les occasions.
Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut. Quand je croise mes amis, ils en crèvent de jalousie en voyant mon beau chapeau.
On va commencer la visite. Donc le musée est sur la partie la plus importante de l'ancienne usine. Deux plateaux d'environ 1000 m² chacun. Donc là on est au niveau rez-de-cour et on va descendre au rez-de-chaussée, en fait, côté douve et côté rue. Voilà, donc on est sur des grands volumes sur le... Cette usine, elle est très imposante, mais la restauration a permis de conserver l'essentiel de son architecture et son esprit. On retrouve bien l'esprit de l'usine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même cette idée. Donc des grands volumes là où on est, une charpente métallique, et puis bien sûr, on voit l'ensemble du volume ici. On est venu se glisser donc à la fois pour mettre comme une boîte dans la boîte avec l'accueil boutique. Et ici commence la visite avec des explications sur l'origine du feutre, l'origine géographique, donc la Mongolie, et puis l'origine historique, moins 7000 ans. Donc tout vient de la Mongolie, et progressivement il va y avoir une arrivée, alors d'abord au Proche et Moyen-Orient, puis en Europe. Pourquoi Chazelles ? Parce que vous aviez ici une commanderie à Chazelles-sur-Yon au Moyen-Âge, commanderie de chevaliers, qui sont partis évidemment libérer le tombeau du Christ en croisade en fait, et en revenant, ils ont ramené la technique du feutre en fait, qui était à l'origine la laine, puisque pendant très longtemps, on ne savait pas feutrer le poil de lapin, parce que c'est technique, et puis il fallait un peu de chimie, et du coup, on travaillait la laine. Et jusqu'au début du 19e siècle, on ne faisait que les cônes à Chazelle. La fin du chapeau, donc c'est-à-dire la mise en forme et le garnissage, se faisait à Lyon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle Chazelle sur Lyon, puisque le donneur d'ordre était lyonnais, en fait. Un petit peu comme on retrouve dans les monts du Lyonnais, Lyon a beaucoup influencé son territoire environnant. Donc au départ, dans des petits ateliers, hein, c'est de l'artisanat. Mais on parle déjà, à la fin du Moyen-Âge, de chapeliers qui apparaissent dans les textes. Et puis, progressivement, il va y avoir un développement donc avec Lyon. Et puis, le basculement va se faire deuxième moitié du 19e siècle avec l'industrialisation, donc le mouvement assez général, et de concentration dans des usines comme celle où nous sommes, où vous avez à la fois l'idée donc de concentrer les ateliers et d'aller jusqu'à la totalité du produit fini. On va avoir comme ça donc ces usines qui vont se développer à partir de fin 19e jusque donc début 20e pour Fléchet, là où nous sommes. La période face, l'entre-deux-guerres. Et puis après, bon, la Deuxième Guerre mondiale et le déclin progressif après la Deuxième Guerre mondiale avec la fermeture dans les années 70. Et à cette époque-là, en fait, l'idée, c'était que le chapeau ne se portait pratiquement plus. Donc la fin a été précipitée par une mode qui a disparu et même une lame de fond, puisque dans les années 60, on ne voulait plus porter le chapeau parce que ça correspondait à des codes de bonne conduite, de savoir-vivre qu'on voulait laisser tomber. Et le chapeau faisait partie de ces codes qu'on ne voulait plus avoir, qu'on ne voulait plus subir en fait.
Combien de chapeaux sortaient de cette usine à la grande époque ?
Plusieurs millions au niveau de Chazelle en fait chaque année. C'était essentiellement du chapeau d'homme qui était diffusé dans la France entière et puis à l'époque à l'international, mais c'était les colonies beaucoup. Un peu de chapeau de femme, mais c'était toujours du chapeau moulé. On verra tout à l'heure la fabrication, ce que ça représente le chapeau moulé. La fabrication de la cloche, c'est la première étape en fait avant la fabrication du chapeau. Et c'est ce qu'on présente donc dans le musée, ce qu'on appelle nous la partie technique. Donc on va pouvoir descendre, mais du coup en bas vous avez les plus grosses machines. On va prendre l'escalier. Et puis on va descendre sur cette partie basse.
J'ai mis une plume à mon chapeau parce que ça fait plus rigolo.
Nous voilà devant les machines bien conservées.
Oui, oui. Donc voilà la partie technique. Et en descendant de l'escalier, le long de la rampe, on se rend quand même bien compte du volume, encore plus qu'en haut. Mais on est voilà, sur cette partie basse qui fait aussi 1000 mètres carrés. Donc on commence, les machines les plus lourdes. Au départ, vous avez la souffleuse qui en fait nettoie le poil de lapin qui historiquement n'arrive pas spécialement de Chazelle. Hein. Il vient de couperies de poils. Et on les recevait en ballot. On commençait par nettoyer ce poil parce que ce poil de lapin, certes, il était dissocié des peaux, mais il y avait encore des impuretés. Ou du ce qu'on appelle le mauvais poil. Dans le langage, on parle de jarre. Et cette machine permet de vraiment séparer le mauvais poil du bon poil en fait. Enfin, alors si vous voulez, je peux la mettre en route. À la fois en métal et en bois, typiquement de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, la technique existe toujours, hein, fabrique toujours du feutre de poil, alors plus à Chazelle, mais au Portugal, en République tchèque. Voilà, c'est les deux grands pôles. Et vous avez ces machines-là. Alors, elles ont été recarénées, retravaillées un peu, mais c'est le même principe. Donc la souffleuse, vous allez voir, c'est un petit peu comme une locomotive qui démarre avec tous ces engrenages qui tournent à différentes vitesses et qui permettent de faire tourner des rouleaux. Et ces rouleaux, en fait, font passer le poil, tomber le mauvais poil, et le bon poil est porté par la soufflerie. Allez, on est parti. Vous voyez les roues qui commencent à tourner, voilà.
Ça projetait pas trop de poils aux alentours ?
Il y avait un petit peu de poils qui partaient, hein, surtout en hauteur, mais pas énormément, non. Donc on a ici une grande photo qui vous permet d'imaginer plus précisément comment ça se passait de manière industrielle. Et on voit bien sur la photo qu'il en ressort des grandes nappes de poils, un petit peu comme du coton en fait. Hein. Notre poil, une fois qu'il est sorti de cette machine-là, il est très propre et il va pouvoir être utilisé pour bâtir la cloche.
On voit plusieurs exemplaires ici de différentes formes.
Voilà, tout à fait. On va peser. Il faut environ 100 grammes pour faire un chapeau. Un peu plus pour un chapeau d'homme, un peu moins pour un chapeau de femme. Et puis on met sur cette machine donc la bastisseuse qui est en deux faces. Une première face là où nous sommes, là vous avez votre tapis roulant. On met notre poil de lapin qui a été pesé, on répartit. Et le tapis roulant va emmener notre poil de lapin de l'autre côté qui est en fait une grande cuve qui va aspirer très fortement le poil de lapin. Alors on va contourner la machine. Cette machine, elle n'est pas en fonctionnement, mais je vais vous expliquer donc le cœur, si on veut, de cette machine.
Donc ça fait une espèce de plaque alors ?
Non, vous avez un cône. Là, c'est un cône métallique de ce côté. Donc on est de l'autre côté de la deuxième phase de la machine. Il faut s'imaginer, le poil de lapin arrive par un tapis roulant par le haut. Vous avez donc une grande cuve un peu conique avec à l'intérieur notre cône métallique qui est perforé. Vous avez une forte aspiration par-dessous. Donc tout naturellement, le cône tourne métallique. Le poil de lapin est aspiré contre le cône lui-même en métal. Et comme il tourne, il va y avoir une certaine épaisseur qui va se former. Lorsque l'ensemble du poil de lapin est arrivé sur le cône, on ouvre les portes de la machine. Vous avez un jet d'eau bouillante qui vient se mettre contre, qui vient plaquer en fait le poil contre le cône. Et on va tout de suite démouler. Alors il faut aller très vite et en même temps être très délicat. Parce que le risque, c'est que ça se déchire. Parce que ce n'est pas encore une matière suffisamment solide, en fait.
C'est très fin.
C'est très, très fin. Et c'est l'eau qui, en fait, fait le liant. Parce que si ça sèche, vous avez à nouveau le poil de lapin. Donc, on est tout de suite au départ sur une très grande cloche, très fragile, et qu'il va falloir très vite faire un premier feutrage pour la faire tenir, en fait. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le travail donc, des étapes suivantes va nécessiter donc, les étapes de feutrage, ce qui va nous permettre de réduire notre cloche et de donner en fait ce type de cloche. Donc une cloche qui a été entièrement feutrée et qui est en fait réduite de 2/3 par rapport au point de départ, qui est énorme en fait. On ne coupe rien, on n'enlève rien, on fait du feutrage et on va amalgamer en fait les poils entre eux. C'est une des particularités du feutre, il n'y a pas de tissage. Donc vous avez différents moules qui vont correspondre aux grands types de chapeaux. Là, on a devant nous un moule qui est, je dirais, un classique. Ça, c'est pour faire le chapeau d'homme presque de tous les jours, de type Borsalino, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez ? Yvan Perreton, directeur de l'atelier Musée du Chapeau à Chazelles. Vous avez à côté un moule qui est avec ce qu'on appelle la calotte. C'est-à-dire la partie haute du chapeau, ça c'est pour faire plutôt le haut de forme. Et on en a sur la droite aussi, on a un moule qui est très à plat, comme un plat en fait en cuisine. C'est pour faire les bérets des chasseurs alpins. Donc chaque fois, on sait déjà à partir de maintenant quel type de chapeau on va faire, une grande catégorie. Voilà.
Combien de sortes de chapeaux différents, vous le savez ?
On parle plus de catégories parce que, ou de familles. Parce qu'à partir de ce type de moule, on peut quand même travailler différents types de chapeaux. Dans la chapellerie à Chazelles, il n'y avait pas énormément de variétés parce qu'on faisait beaucoup de chapeaux d'hommes, c'était assez classique. Il n'y a que quand il y a eu la crise, donc dans les années d'après-guerre, on s'est dit qu'il faut renouveler. Et c'est à cette époque-là qu'ils ont commencé à travailler, on dirait aujourd'hui, le design ou le style. Mais c'était déjà un peu la fin, en fait. Et ça n'a pas vraiment pris parce que le problème, il était autre. Donc on était quand même sur des formes, peut-être 5-6 formes, maximum 10, vous voyez, des grands classiques. Alors ils changeaient le ruban parce qu'après il y a la forme et puis la garniture. Là on peut jouer sur la garniture aussi pour renouveler notre chapeau. Mais les bases étaient quand même assez classiques.
C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai retrouvé mon chapeau. Dernier étage de ma coquetterie. C'est le soulier de mon cerveau.
C'est donc après la Seconde Guerre mondiale que le chapeau perd de son importance dans la société moderne. Les styles évoluent vers des tenues plus pratiques, moins formelles, et la mode fait qu'on n'est plus tenu de porter un chapeau quand on sort ou quand on va travailler. Il cesse définitivement d'être un marqueur social pour ne devenir qu'un accessoire que l'on choisit minutieusement pour quelques cérémonies. Notons toutefois qu'il n'a pas complètement disparu, bien entendu, surtout celui qui a une certaine utilité, celui qui protège du soleil, le Panama par exemple, le sombrero au Mexique, le chapeau de cow-boy aux États-Unis. Il y a encore aujourd'hui des couvre-chefs populaires grâce aux sportifs, la casquette de baseball par exemple, grâce aux rappeurs, la casquette à l'envers bien sûr.
Ma vie est synonyme de casse-tête. Black M n'a pas retourné sa veste, il a retourné sa casquette. J'irai jusqu'à devant le chef d'état, à lui dire en face que je pense sans faire de détails.
Casquette à la honneur.
On dit que la vie ne fait pas le moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma
casquette à la honneur.
Je vais pas faire de cinéma, c'est
oh, Casimir, tu m'as l'air bien gay aujourd'hui.
Oui, ça fait un franc.
Un franc parce que tu es gay?
Non, non, mais parce que tu es rentré dans mon musée du chapeau.
Eh ben, tiens, voilà tes un franc. Pour une fois, je veux bien te les donner.
Parfait. Alors attention, la visite commence. Suivez le guide.
Allons-y.
Alors ici, un premier chapeau avec une plume rouge.
Très beau.
Ici, un autre très beau chapeau avec plein de plumes noires. Par ici, la visite, suivez le guide. Ici, d'autres chapeaux sans plumes, mais très beaux quand même, avec un casque. Par ici, suivez le guide.
Yvan Perreton, directeur de l'atelier Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon, sur RVR.
Voilà, on va continuer.
Oui.
Donc une fois qu'on a basti la cloche, on va semousser avec le semousseur, donc à l'atelier de semoussage. Alors l'atelier de semoussage, c'est très important parce que c'est celui qui va permettre à la fois de créer cette première matière feutre et puis de contrôler la qualité, si on est sur une bonne qualité de feutre. Vous voyez, on est face à la lumière, ça c'est très important. On est face à une baie vitrée et puis on a une table qui est en fonte. Vous avez l'eau bouillante qui rentre à l'intérieur et vous avez l'opérateur, le semousseur, qui va en fait prendre de l'eau bouillante, qui va mettre sur la plaque, ça va donner de la vapeur. Et lui va feutrer, c'est-à-dire qu'il va rouler les cloches qui sont donc très fragiles. Il en met plusieurs dans un grand carré de couverture et il va feutrer à la main. Un peu comme le boulanger qui pétrirait, quoi, vous voyez. C'est un peu l'idée. Il va y avoir donc ce premier feutrage, donc l'amalgame des poils entre eux, qui va permettre donc d'avoir cette matière qui est encore fragile, mais qui permet de commencer à se rendre compte de ce que ça va devenir. Et là, le deuxième élément, c'est le contrôle qualité, comme on dirait aujourd'hui. Et là, il travaille par transparence. Et il va voir si l'épaisseur est suffisante ou pas. Et s'il y a des impuretés, comme on peut le voir sur la photo, il peut enlever l'impureté ou rajouter du poil si jamais il en manque. Si on a un problème, la cloche, elle est foutue. Elle n'est pas utilisable.
C'est un travail d'homme exclusivement, ce moussage?
Alors, ce moussage, oui. Ouais. Le bastissage aussi. C'est après le foulage où vous avez des femmes.
Chaque pays possède sa coiffure. Le Marocain porte en fesse rigolo. Le Mexicain ne manque pas d'allure en arborant son vaste sombrero. Le bon bourgeois, ce n'est pas un reproche. Mets un melon, tant mieux si ça lui plaît. Moi, mon chapeau, je le mets dans ma poche. Je suis gascon et porte le béret.
Voilà, donc là, on s'approche d'un autre atelier qui est l'atelier de foulage, donc qui est aussi très mécanique, qui a été mécanisé. Là, en fait, le musée, on présente les machines de la grande époque, donc dans les années 20, les années 30. On a vu des machines qui étaient plus anciennes. Et puis là, c'est une machine qu'on a en face de nous, qui date des années 50, qui a été conçue à Chazelles. Puisqu'à Chazelles, vous aviez des entreprises qui gravitaient autour de la chapellerie et qui fabriquaient ce type de machine qui donc permet de feutrer de manière industrielle le feutre de poils de lapin. Donc ce sont des rouleaux qui vont tourner grâce à un système alternatif et qui vont recréer le mouvement. Et en fait, on va travailler toujours avec de l'eau bouillante et avec un mélange d'acide sulfurique parce que, en fait, il faut savoir que le poil de lapin a du mal à se feutrer naturellement. Donc il faut un agent feutrant. C'est pour ça que je vous disais que jusqu'au XVIIIe siècle, on ne sait pas feutrer le poil de lapin. On feutre la laine parce qu'on ne sait pas faire. C'est d'ailleurs progressivement, grâce à la chimie, grâce à ces acides, qu'on va pouvoir faire en sorte que ce poil de lapin devienne du feutre. Et ces machines donc, le permettent grâce à cet arrosage en fait, d'eau bouillante mélangée avec de l'acide sulfurique. On va mettre une journée de 8 heures pour feutrer convenablement notre cloche de poil de lapin.
Un chapeau, ça va se faire en combien de temps?
Alors, si on parle du poil de lapin jusqu'au chapeau fini, avec les temps morts, c'est-à-dire de séchage et autres, il faut une semaine. Déjà, il y a ce foulage qui dure une journée. Ça, déjà. Voilà, alors je peux la mettre en route aussi, vous allez voir, c'est pas le même bruit que l'autre.
Ah, c'est bien pour les auditeurs.
Ah oui, c'est radiophonique. Voilà. Pas besoin d'explication. Merci. Alors, il n'y avait pas de protection. Non, il n'y avait aucune protection. Et d'ailleurs, donc, l'atelier féminin ici, qui était de l'autre côté d'ailleurs, chez Fléchet, c'est le bâtiment en face dans la cour, là, juste de l'autre côté, qui peut-être un grand bâtiment plein pied, puisque des machines très lourdes aussi. Et vous aviez que des femmes, et elles étaient reconnaissables dans la rue parce qu'elles parlaient très fort. Parce que justement, pour s'entendre d'une part quand elles étaient avec leurs collègues, et puis aussi parce qu'elles arrivaient à être sourdes au bout d'un moment, quoi. Et vous s'imaginez, là, vous en avez une, mais vous avez la photo, vous en avez dans l'alignement une, deux, trois, quatre. Et il y en a au moins deux, voire trois qui tournent. Il y en a trois qui tournent, là. Donc, il faut s'imaginer des ateliers très bruyants. Alors, l'atelier de foule, c'est un des ateliers les plus pénibles. Parce qu'on va retrouver, ce qu'on va retrouver la plupart du temps dans la chapellerie, c'est-à-dire de la vapeur. Hein, le feutre se travaille essentiellement à la vapeur. Il faut toujours, toujours, toujours de la vapeur. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez, sur le site de la chapellerie, ce bâtiment central, qui est l'ancienne chaufferie, qui permettait de distribuer la vapeur à l'ensemble des bâtiments. Quand on arrive, on a la cheminée et ce bâtiment central. Au milieu, hop, hop, on dispatchait la vapeur. Donc, de l'humidité, comme on a vu pour feutrer, il faut de l'humidité et du bruit. Donc là, vraiment, on avait la totale, là. Et puis, en plus, on était debout, etc., etc. Et en plus, pour le bâtiment, c'était difficile aussi, puisque les charpentes en bois ne résistaient pas à cause de l'humidité. Et ils sont passés, donc, en 1902, donc au moment de la construction de ce bâtiment, sur la partie de la foule, ils ont mis une charpente béton, en béton armé. Donc, c'était très avant-gardiste. Et c'est un des éléments qui a permis le classement du bâtiment en monument historique, grâce à cette charpente béton qui est très, très avant-gardiste et très originale. Alors, une fois qu'on a bien feutré, une des particularités du feutre, c'est d'être imperméable. Alors ça, c'est une grande différence par rapport au feutre de laine, qui ne l'est pas. On donne toujours l'exemple du chapeau de cow-boy dans les films de cow-boy. Je ne sais pas si vous avez en tête l'image. Le cow-boy, comme c'est souvent désertique, il donne à boire à son cheval en prenant son chapeau. Et l'eau, elle reste dans le chapeau. Mais ça, c'est parce que c'est du feutre de poil. Voilà, ça, c'est typique. Le feutre de poil, vous avez un feutre imperméable.
Quand un cow-boy s'en va dans la plaine, pour une heure à peine, il n'emporte rien. Quand un cow-boy part une semaine, c'est fou ce qu'il emmène sur tous les chemins. Son chapeau, oh, oh, son lasso, youhou, son cheval, et tout un arsenal, son fusil, bon, bon.
La visite guidée du musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon sur RVR avec son directeur Yvan Perton.
Donc une fois qu'on a bien travaillé au foulage, eh ben on va donner de la couleur. C'est une étape chimique à part, puisque c'est un procédé très particulier qui nécessitait donc des connaissances en chimie. Alors au début, c'était bien sûr chimie naturelle, et puis après, c'était chimie artificielle. Et on travaillait alors soit dans des bains de couleur, pour faire interpénétrer en fait la couleur dans le feutre, soit sous pression, et bon là on n'a pas de machine à vous montrer, mais on pouvait faire pénétrer la couleur de force. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce dont je vous parle, que ce soit par les bains ou par pression, c'est pour faire les couleurs unies. Pendant longtemps d'ailleurs, c'était des couleurs sombres, hein, les marrons, les noirs, les gris, les verts éventuellement. Et puis progressivement, pour les dames, eh bien, on a mis de la couleur, mais c'est venu très progressivement. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories, les couleurs sombres et les couleurs claires. Pour les couleurs sombres, dès le départ, on va utiliser du poil de poil de lapin, mais plutôt gris. Vous avez le gris marron, là. Et pour les couleurs claires, du blanc, exclusivement du blanc. Une fois qu'on a fait notre couleur, on va travailler la surface du feutre. Là, c'est une deuxième particularité du feutre de poil de lapin par rapport à la laine. C'est qu'en fait, on peut travailler ce qu'on appelle la finition. La finition de l'aspect du chapeau, qui n'est pas encore chapeau à ce moment-là, mais qui permet d'avoir différents types de textures, de surface de feutre. Alors, on va rentrer dans cette boîte. Voilà, là, c'est l'atelier de finition. Alors, pourquoi on a mis ces machines? Donc, vous voyez, il y a une série de machines qui sont présentées devant vous. Pourquoi elles sont dans cette boîte?
Devant des tabourets.
Et devant des tabourets, ben voilà, très, très bonne remarque. Parce que c'est la première étape de l'atelier de production. Vous avez évoqué le fait qu'on s'appelle atelier-musée. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a visité sont des machines qui ne fonctionnent pas. Enfin, on les a mises en route, mais elles ne sont plus utilisées pour faire du feutre de poil de lapin. Par contre, ici, l'atelier des finitions, c'est la première étape pour fabriquer notre chapeau made in Chazelles, quoi, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on achète les cônes, essentiellement nous au Portugal, ou un peu en Allemagne, et on les retravaille à la surface du feutre. D'ailleurs, on a Didier là, qui travaille, je ne sais pas si on entend dans la radio, mais on ira le voir, là, il est en train de former des chapeaux. Voilà, et il commence son premier travail, c'est ici. Alors, le travail des finitions, je peux vous parler de trois finitions. C'est les plus courantes. Vous avez d'abord le feutre rat. On va s'approcher des exemples que je peux vous montrer. Le feutre rat, c'est le chapeau d'homme qu'on va trouver dans le commerce la plupart du temps. voyez, c'est un feutre qui est légèrement poncé. On va lui enlever. Je vais vous montrer un autre modèle. Vous voyez, au départ, le feutre, il est relativement comme ceci, c'est-à-dire avec des petits poils. Attendez, on va se mettre un peu la lumière. Vous voyez, on a des poils comme ceci. Donc ces poils, on va les enlever pour que ce soit beaucoup plus, voilà, beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonisé. Donc on va utiliser cette machine qui est une ponceuse. On utilise en fait un ruban abrasif qui va tourner très vite. Et après, c'est avec le savoir-faire qui va faire qu'on va enlever un petit peu, mais pas trop, puisqu'on risque de percer en fait notre feutre. Deuxième type de finition. Donc ça, c'est le feutre rat, donc le chapeau d'homme classique. Alors on va se déplacer un tout petit peu. On va rejoindre la machine qui est juste là, qui est la carreleuse. Alors la carreleuse, vous voyez, c'est une grande bande avec des pics métalliques. Donc elle tourne pas très vite, mais elle va venir arracher du poil. Vous voyez, ça pique un peu. Donc elle tire le poil et on va faire, vous voyez, cet aspect, un aspect fourrure, très très doux aussi, mais dans tous les cas, c'est doux. Hein. Vous voyez, c'est très très doux. Et en fait, on a quelque chose d'aspect fourrure, quoi. Et le dernier exemple, ben, c'est le topé. Alors pour faire un joli topé comme celui-ci, on a deux étapes, donc deux machines différentes. D'abord, on va utiliser la castorineuse. Alors la castorineuse, comme l'autre machine, la carreleuse, elle tire le poil, mais beaucoup moins. Et pour tirer le poil avec cette machine, on utilise la peau de chien de mer. La peau de chien de mer, c'est une peau de requin en fait, de petit requin, la famille de la doucette. Et on va découper des bandes sous son ventre, et vous avez des petits pics en fait. Et c'est ce qui va permettre de tirer le poil.
Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Doup-doup-doup, doup-doup-doup-doup. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles.
Donc on tire le poil. Et puis après, ben, on va égaliser. On va égaliser en tondant avec cette machine. Donc, c'est une tondeuse un petit peu comme quand on tond les moutons. Hein. C'est le même principe, sauf que là, c'est fixe. Voilà. Et on aura cet aspect plus velours, quoi, si vous voulez, qui est un petit peu le haut de gamme de notre chapeau en termes de texture. Voilà.
Béret, Borsalino, Bibi, Bombe,
Chèche, Chapka,
Bonnet,
Panama,
Bicorne,
Sombrero,
Tricorne, Sombrero, Cagoule,
Borsalino,
Képi,
Pitos,
Casquette,
Cagoule,
Haut de Forme,
Casque,
Chapka,
Képi, Casquette,
Panama,
et toque,
Trimby, Mitre, Turban,
Melon,
Stetson,
Galurin,
Chèche, Calotte,
forme,
Melon,
Cagoule,
Gibus,
Canotier,
Bob, Chapeau de Paille, Chapeau Claque.
En voyage ou au cinéma, vous avez vu l'Himalaya, l'Acropole et Pompéi, l'Espagne au ciel fleuri. Vous avez vu Londres et ses miss, Bruxelles et son mannequin Piss, jusqu'aux îles Hawaï. C'est beau, très joli, mais tout ça, voyez-vous, ce n'est rien, monsieur, rien du tout. Je connais beaucoup mieux. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau à vapeur rigolo. Sur le devant, on a posé trois plumes de paon. Et sur le côté, un amour de perroquet. Pour être original, il l'est, je vous le jure. Ce n'est pas le bibi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo?
Voilà, une fois qu'on a fini les finitions, ben, il restera à former notre chapeau et faire...
Parce que là, on est toujours sur la cloche.
Exactement, qui est en fait le pré-chapeau. Et maintenant, il va falloir former la calotte, parce que notre cloche, elle est relativement pointue. Donc, il va falloir élargir la partie supérieure et élargir la partie inférieure pour en faire d'un côté la calotte, la partie haute, et de l'autre côté, le bord.
Pour être original, il laisse, ça, je vous le jure, ça n'est pas le pipi de n'importe qui.
Yvan Perreton, directeur de l'atelier Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon, sur RVR.
Voilà, donc là on avance toujours dans le musée. Voilà, ben, Didier.
Bonjour.
Bonjour. Ça va? Donc Didier qui est chapelier, qui est en train de faire eh ben, une mise en forme, qui est en train de reprendre même un chapeau.
Oui.
Le bord du chapeau, voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, on travaille à la vapeur. Donc là, on voit très bien la marmite qui est en train de chauffer, la vapeur qui en sort. Donc là, c'est très très chaud. Hein. Tu vas rester combien de temps là? À peine.
C'est quoi? Une petite minute, à peine une minute, oui. Et ça sort à 100, 110 degrés, la vapeur.
Le feutre adore la chaleur. Et voilà, plus c'est chaud, plus il aura des facilités à travailler le feutre. Vous voyez, on voit très bien le geste qui permet, vous voyez, il lui donne un peu d'ampleur à notre bord.
Hein, parce que cette manière, il va nous expliquer en même temps.
Là, j'étire le feutre pour faire le bord du chapeau et lui donner sa forme.
Ça ne peut pas se faire par la machine.
Alors si, mais c'est vrai que nous, on a choisi...
Si on a une machine, au début, je la passe à la batteuse de bord, voilà. Qui est derrière, là, si vous voulez voir.
La batteuse de bord, et puis aussi, pour élargir la calotte, la jungueuse, tu l'as utilisée, la jungueuse,
oui.
Voilà, la jungueuse de tête, ce qu'on appelle. Donc qui évite le côté pointu, qui casse le côté pointu, et donc la batteuse qui élargit le bord. On a, en sortant de ces deux machines, on a un peu comme une capeline, vous voyez.
Et là, je peux voir que vous utilisez beaucoup d'outils. Pouvez-vous nous en présenter quelques-uns?
Oui, ça s'appelle un avaloir, avec une tête en métal, avec une gorge, qui guide la ficelle pour fixer le feutre plaqué contre la forme. Les ciseaux pour couper le bord.
Et puis après, il y a des petits outils qui...
Là, c'est pour la mise en forme du chapeau. Alors,
donc, c'est en deux parties.
D'accord.
On forme d'abord la calotte, le haut du chapeau, et ensuite le bord du chapeau.
Et la forme donc, qui est en bois correspond au chapeau qu'on veut avoir. Donc, ce qui fait que derrière moi, vous avez un mur de forme qui donne un exemple de toute la variété des types de chapeaux qu'on peut faire. Les 55, c'est vraiment le tour de tête en centimètres, hein, un peu au-dessus de l'oreille et au milieu du front, hein, grosso modo. On fait le tour comme ça et ça fait une mesure entre 55 et 62 en moyenne. C'est les plus courants.
Oui, c'est le plus courant. Ben, les tailles 55-56, c'est plus pour les femmes et... 63, on arrive chez les hommes.
On est sur des formes, donc comme disait Didier, il y a la calotte, vous avez différents types de calottes. Donc la basique, c'est ce qu'on appelle la calotte boule. Pour vous donner un exemple, c'est ce qui sert à faire les chapeaux melons. La calotte du chapeau melon ou la calotte du curé, c'est la même base.
Et vous avez un atelier bois alors pour fabriquer toutes ces
calottes?
Alors
c'est un métier à part, c'est un petit peu comme le chimiste, c'est le métier de formier, qui est effectivement un métier où on travaille le bois. Là, essentiellement le tilleul, donc c'est un bois tendre. Et le formier, si vous voulez, c'est un profil d'ébéniste, sculpteur sur bois. Il y a cette dimension de volume qui est très importante. Alors, ça se faisait ici. Mmh. Alors, il y avait deux options dans les usines. Soit c'était dans l'usine, soit c'était un prestataire à part, en fait, un peu un sous-traitant, quoi, si vous voulez. Voilà, alors à Chazelles, il n'y en a plus, bien sûr. Hein, ça fait déjà des années qu'il n'y en a plus. Il y a eu nous, on a formé quelqu'un qui est devenu formier. Qui était pendant 4-5 ans sur le site de la chapellerie et qui a déménagé depuis. Donc sur Chazelles, aujourd'hui, il n'y a plus de formiers en activité. Et même en France, ils sont trois, en fait. Hein, c'est un métier rare. Hein. Ça fait partie des métiers d'art, d'ailleurs, comme le métier de modiste. Hein. Et il y en a plus que trois en France. Et ils travaillent beaucoup pour la haute couture. Donc il y en a un à Paris. Et puis sinon, pour les modistes, c'est-à-dire pour des commandes spécifiques, des chapeaux spécifiques. Voilà, plus en lien avec le sur-mesure, oui, tout à fait. Voilà, donc on va continuer. Merci Didier.
Merci Didier.
Sous les lampions qui volent, Port-au-Prince est illuminé. Ferme la farandole, les garçons semblent déchaînés. C'est pour tous les créoles, aujourd'hui le jour le plus beau. La fête, la fête, la fête au chapeau.
Le garnissage, donc là c'est la dernière étape. Hein. Après notre chapeau, il sera terminé. Hein. Voilà, donc le garnissage, bah, c'est pour vous donner aussi un point de comparaison. C'est un petit peu comme un atelier de couture, où on va travailler avec des machines à coudre. Ou même à main levée, ce qu'on appelle à main levée, c'est-à-dire on va coudre avec des aiguilles à la main. Dans les machines à coudre, la particularité, c'est qu'on va avoir des machines à coudre à bras libres pour faire en sorte de pouvoir coudre en tournant la totalité du chapeau. Et sinon, donc on voit ici un atelier de garnissage reconstitué qui, on a devant nous une table en fait, qui a été spécialement dessinée pour l'atelier de garnissage chez France et qui, en fait, est à... je ne sais plus combien, il y a 8 côtés, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, hexagonal. Octogonal, pardon. Mais attends, c'est 9, alors c'est hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.
Nonagonal.
Non, mais c'est...
Nonagone, non, c'est 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 5,
8. Ah ben, octogonal, oui, pardon. Octogonal, ouais, j'ai eu un doute.
Côté, c'est rare.
Oui, octogonal, et en fait, vous avez chaque côté correspond à une place. Donc, vous avez sur la table les matières pour la journée, positionnées par le contremaître ou la contremaîtresse, et dans le petit tiroir en dessous, les outils pour la journée aussi, pour le travail.
Donc, 8 ouvrières. Là-dessus.
Jusqu'à 8 ouvrières, voilà. Et vous avez le barreau qui permet de positionner ses jambes, enfin ses pieds dessus, et qui va permettre de soulever, enfin de surélever un petit peu les jambes pour travailler sur les jambes. On travaille beaucoup sur les jambes, comme on le voit en fait sur la belle photo ici. Les femmes, puisque c'est un atelier de femmes, travaillent donc sur les genoux en positionnement notre entrée de tête. Donc l'entrée de tête, c'est ce qui vraiment est qui fait le lien entre le chapeau et la tête, et qui correspond à la taille du coup, et qui est cousue.
Voilà, elle couse les bords, l'intérieur.
Voilà, la garniture, ce qu'on appelle garniture, aussi. Donc l'entrée de tête, la garniture, et la garniture extérieure, ce qu'on appelle aussi le gros grain, qu'on peut appeler aussi le ruban, etc. Il y a différents types de possibilités. On peut réutiliser notre feutre qu'on a enlevé en partie extérieure. On peut utiliser du cuir. Après, voilà, tout dépend ce que l'on souhaite avoir.
Là, on voit un beau chapeau jaune citron qui aurait pu être porté par la reine d'Angleterre.
Ah ben, tout à fait. Oui, oui, vous avez un bel exemple de feutre de poil de lapin en couleur jaune. Oui, oui, vous avez du vert. Alors, vous avez à la fois de l'uni, puis aussi vous avez de l'imprimé en carreaux et, ou en tacheté, en fait. Tout dépend, en fait, la commande, hein.
Des centaines de possibilités, finalement.
Exactement.
Hein. Et des boutons aussi.
Alors, des boutons et aussi des grilles, en fait, qui permettaient d'aérer le chapeau, hein, qui étaient beaucoup utilisées pour les colonies, en fait. Les chapeaux coloniaux qu'on mettait sur la calotte pour faire passer l'air, en fait, d'un côté à l'autre.
Oui, pour l'aérer.
Oui, exactement. Mm-hmm. Exactement. Voilà, donc on a fini ce qu'on appelle, nous, la partie technique. À partir de maintenant, on est dans une partie du musée qui est en visite libre, et qui permet de connaître, de comprendre comment travaillaient d'autres ateliers, mais qui étaient liés à la chapellerie. Donc là, c'est là qu'on présente le formier, dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Ici, c'est un atelier, ce qu'on appelle restitué. Restitué, ça veut dire que M. Moureau, puisque c'est l'atelier de M. Moureau, qui était à Chazelles, qui a fermé en 1975, il viendrait aujourd'hui, il est décédé, hein, ce monsieur, il viendrait aujourd'hui, il retrouverait ses outils au même endroit. Le volume de la pièce de cet atelier, c'est exactement son volume à lui. On a remis exactement au même endroit, dans les mêmes proportions, son atelier. Et donc, ça ressemble quand même beaucoup à un atelier de menuiserie.
Oui, avec énormément d'outils.
Exactement, beaucoup d'outils manuels. Une scie à ruban, un rabot, choses comme ça. Mais ça reste quand même très manuel avec des gouges et différents types de matériel pour travailler le bois. Donc ça, c'est le formier. Vous avez ici des ustensiles qui sont utilisés essentiellement dans ce qu'on appelle les chapelleries de ville. Les chapelleries de ville, c'est là où on vendait les chapeaux par des détaillants. Et vous aviez pendant longtemps, ça commence à revenir aujourd'hui. Si par exemple un client voulait qu'on retravaille la taille, ou alors retravailler le bord, lui redonner une jeunesse, le robichonner comme on dirait à Chazelles, eh ben ils avaient développé différentes astuces, notamment vous voyez pour faire de la vapeur une cocotte minute comme ça. Ça pouvait être aussi des outils pour élargir le bord, donc avec cet outil électrique là qui permet d'écarter les bords.
Voilà, et puis des boîtes à chapeaux.
Et puis dessous des boîtes à chapeaux, voilà. Et au-dessus de cette étagère, des piles de chapeaux. Hein, voilà, typiquement des chapeaux d'homme très classiques et qu'on empilait pour présenter en fait.
Le matin, quand je m'habille, je fouille dans mes placards. Toutes mes robes sont très gentilles et j'en mets une au hasard. Mais pour le choix de mon chapeau, c'est différent. Et c'est pour cela qu'il m'en faut 200 paros. Mon petit chapeau blanc, je le mets pour Fernand. Mon petit chapeau vert, je le mets pour Albert. Mon petit chapeau gris, c'est pour mon Henri. Mon petit chapeau noir, c'est pour mon Édouard. J'en ai un à poids, c'est pour mon Éloi. Celui de chez Lewis, celui...
On va parler un peu de cette facette de ce musée, donc le côté atelier, donc voilà. Vous formez. Alors ça veut dire qu'on peut venir vous voir, des passionnés ou qui veulent apprendre ce métier, comment ça se passe?
Voilà, donc pour nous l'atelier musée, c'est vraiment ce côté conservatoire, donc on a le savoir-faire qui nous est hérité, et l'idée c'est de le partager, de le transmettre pour faire en sorte que ce métier vive, parce que... On est un musée, mais l'idée, c'est que ça se diffuse et que ça progresse.
Ce sont des anciens qui sont venus transmettre leur savoir-faire?
Alors, on est à l'étape suivante, c'est-à-dire que les anciens ont transmis à la génération suivante, et c'est la génération aujourd'hui qui transmet, cette génération-là transmet.
Yvan Perreton, directeur de l'atelier Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon, sur RVR.
Le professionnel dans le métier vient apporter son savoir-faire, transmettre son savoir-faire.
Des stages de formation. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc des modules courts d'une semaine qui sont répartis. On a un programme sur l'année et ça permet sur une technique particulière, de transmettre le savoir-faire. C'est toujours façon modiste, un peu chapelier, mais on est surtout sur le métier de modiste, en fait. Donc ça va être l'approche matière, comme je le disais, faire des chapeaux en tissu, des chapeaux en feutre, des chapeaux en paille. Des chapeaux, le turban par exemple, mais un turban élaboré, on est sur une structure, donc comment on fait cette structure de base qui maintient, et puis après on va travailler le tissu en bouillonné, en drapé, hein, vous voyez, les types de drapé, et puis aussi il y a tout le volet spectacle, apprendre à faire des chapeaux de spectacle, donc là c'est plus spécifiquement pour les théâtres, les cinémas éventuellement.
Cabaret,
tout à fait, donc on apprend donc comment on fait une structure qui soit légère, portable, où on peut bouger sans que ça tombe, et esthétique, visible de loin, etc. Donc tout ça c'est transmis à travers notre centre de formation, donc c'est un centre professionnel, hein, l'idée c'est de transmettre un métier pour une profession. Vous voyez, depuis qu'on est ouvert, depuis 1995, je parle pour le centre de formation, on a reçu plus de 1500 personnes. Ah ouais, donc c'est des gens qui s'installent ou parfois qui sont déjà dans le métier. Et ça permet donc de transmettre ce métier à l'échelle française et européenne, puisqu'on a des gens d'Italie, d'Espagne, là où il n'y a pas forcément de formation, de Suisse aussi, beaucoup de Suisse, de Belgique. Alors on va terminer notre petit tour. On évoque la paille, la fabrication du chapeau de paille. Alors... À Chazelles, il n'y avait que deux usines qui faisaient de la paille. Sinon, la capitale du chapeau de paille, c'est Saint-Symphorien-sur-Coise, qui est juste à côté. Vous voyez ? Et vous avez ici donc une évocation avec les machines à coudre, une machine spécifique pour coudre la tresse de paille, qui est une particularité du chapeau de paille. Et d'ailleurs, on transmet ce métier à travers un module qui s'appelle paille cousu machine. Donc, on utilise la tresse de paille que l'on achète en écheveau. Vous avez une présentation ici. Différents types d'écheveaux de paille, et on va les coudre en rond avec cette machine qui coud à cheval en fait les tresses. Sinon, l'autre possibilité, c'est de travailler avec un cône en paille, un petit peu comme le feutre. Après, on utilise la même technique de moulage en fait.
Sous mon chapeau de paille, de Courcelles à Pantin, je voyage sur les rames du métropolitain.
Chapeau de paille, 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 paille, paille.
Dans mon chapeau de paille.
Et on avance, on avance, on avance. Et là, on est dans une présentation d'une ancienne chapellerie avec son mobilier, qui est la chapellerie Bruyat. Alors, je ne sais pas si à Rouen, il y avait une chapellerie ancienne, mais celle-ci, elle est de Saint-Étienne.
D'accord. À Rouen, nous avons la chapellerie Craclet.
Craclet, voilà, tout à fait, oui, qui est un commerçant important dans le domaine.
Très actif encore.
Ah, très, très actif, et il s'est positionné sur Internet, et ça fonctionne bien. Oui, oui. Donc là, vous avez le mobilier de chapellerie du début du siècle, début du XXe siècle, avec bien sûr tous ces miroirs et derrière donc les rangements qui permettaient à la fois de garder les chapeaux en réserve et puis de sortir les chapeaux et de se voir habillé, quoi. Et la particularité de la chapellerie Bruyat, c'était au départ d'avoir une chapellerie comme Chazelles, en fait, où on fabriquait, et puis ils allaient jusqu'à développer les succursales et les points de vente avec toujours le même modèle de magasin. Et elle était à Saint-Étienne, on l'a récupérée en 98, elle était place d'Orient à Saint-Étienne. Aujourd'hui, il y en a deux en France qui existent encore. Vous avez Dijon, sur le même modèle, hein, et puis Angoulême.
Sous mon chapeau de paille, je me sens bien.
Yvan Perreton sur RVR, directeur de l'atelier musée du chapeau de Chazelles-sur-Lyon. Après la visite de la partie fabrication,
place au musée proprement dit, qui propose expos temporaires, restitutions, galeries de mode depuis le Moyen-Âge, sans oublier les créations contemporaines.
Donc là, on vient de remonter à l'étage.
Alors, ce que l'on entend, je ne sais pas si ça s'entend à la radio,
ce sont des extraits en fait littéraires qui parlent de chapeaux. Et on appelle ça les chapeaux murmures, puisque en fait ces extraits sortent de chapeaux.
Ah ouais, c'est bien.
Voilà, donc là on commence le chapeau dans l'histoire, et on remonte au Moyen-Âge. Alors les chapeaux présentés, ce ne sont pas des chapeaux originaux. Ce sont des facsimilés, des reconstitutions, à partir de gravures essentiellement, de textes, mais c'est surtout des gravures. Voilà. Donc on présente le chapeau au Moyen-Âge, en feutre de laine, hein, bien sûr, hein, ou en feutrine, en textile, et puis on a cette fameuse plume de paon. C'est pour ça qu'on a deux paons là qui nous accueillent et qui rappellent justement le symbole de cette plume de paon, le côté, la force, le pouvoir, la puissance, et qui correspondait au chapeau de seigneur en fait. On va rentrer dans une boîte justement qui nous fait progresser dans le temps, hein, puisqu'on est parti du Moyen-Âge, on va aller jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à la Révolution française. Donc là, on est toujours sur des facsimilés, des reconstitutions, avec toujours la mise en avant de la plume. Hein, jusqu'au XIXe siècle, la plume est associée au chapeau d'homme. Et il y aura un basculement après avec les femmes. Mais donc, ça rappelle la puissance. Et là, on a des très beaux chapeaux. Ça ressemble au chapeau d'Artagnan, quoi, si vous voulez. Ça correspond à la même époque. Et c'est de la plume d'autruche. Et vous avez donc progressivement... Alors ici, vous avez un chapeau spécifique qui a été porté à l'époque de la cour de Marie-Antoinette, et ça correspond à ce qu'on appelle les chapeaux pouf, et qui mettait en avant, si vous voulez, c'est une opération de com', on dirait aujourd'hui, une manière de penser sur un sujet particulier, c'est une manière de s'exprimer, quoi, vous voyez, voilà. Donc on portait ça à la cour.
Donc là, on voit un bateau.
Voilà, c'est un bateau. Alors, ça correspond en fait au développement en fait de la puissance française sur les mers, entre les Hollandais, les Anglais, etc. Donc, quelle place la France va avoir sur les mers, et quelle puissance la France va développer.
C'est en quoi ?
Vous avez différentes matières, hein. Donc il y a à la fois du textile, il y a du bois aussi qui correspond à l'armature du bateau, et les voiles c'est du tulle, je pense, voilà. Et puis vous avez un petit peu de crochet aussi, voilà. Donc on progresse, voilà. Donc là on est dans la grande partie de la galerie mode, où on a on retrouve cette profondeur du bâtiment. Quand on regarde en hauteur, on retrouve la même charpente de tout à l'heure en métal. Et puis on a donc ces grandes époques historiques qui sont scandées par du feutre, avec ces années là qui sont inscrites en pochoir sur les grandes tentures de feutre. C'est du feutre industriel, et qui donne en fait un bel aspect, un côté matière par rapport à cet espace qui est très intéressant. Et de ce côté, donc on a le développement d'une vitrine sur les chapeaux de fonction, essentiellement des bicornes, hein.
Les bicornes.
Les bicornes, qui est en fait une particularité du chapeau, alors soit militaire, soit en lien académicien, institutionnel, quoi. Les grandes écoles, centrales, polytechniques. C'est une évocation, parce que après, c'est vrai que on n'a pas été non plus trop loin. C'est vrai que le symbole du chapeau dans les domaines des institutions, ça peut aller très très loin. Il y a beaucoup beaucoup, notamment l'aspect militaire.
Oui. Bien sûr, les bérets, les képis, voilà, enfin, bon, et puis, des centaines de.
Et les fonctions qui sont associées et qui sont présentées sur le chapeau.
Le chapeau du facteur, le
Exactement.
Chapeau du curé.
Exactement. Alors le curé, on va en parler, parce qu'à Chazelle, on les fabriquait. Alors le 19e, donc là, c'est une très belle vitrine carrée, sur trois faces ouvertes, avec bien sûr des vitres. Mais ce qu'elle est importante, cette vitrine, parce que si vous voulez, c'est le développement de la bourgeoisie. Et c'est cette bourgeoisie qui va codifier le savoir-vivre, dont on est encore un peu hérité, mais qui a été quand même pas mal dilué, et qui va traduire cela notamment dans les chapeaux. Et c'est à cette époque-là, donc au XIXe siècle, que vont se développer, selon les pays, les chapeaux melons, les canotiers, les chapeaux de forme, les capotes pour les dames, etc., etc.
Les casquettes, on n'en a pas parlé.
Alors les casquettes, tout à fait, les casquettes d'ouvriers. Donc là, mais c'est pas la bourgeoisie, mais sinon oui, tout à fait. Ça fait partie aussi, mais c'est le développement aussi de la bourgeoisie, de l'industrialisation et de le monde ouvrier effectivement portait la casquette.
C'était un gosse au cœur charmant, on l'appelait le sans-famille, bien trop sérieux pour ses 10 ans, il ne jouait jamais aux billes, et des autres on le distinguait, à la casquette qu'il portait, la casquette un peu de côté, on le voyait se balader, ça lui faisait une drôle de tête, sa casquette. Ses copains dans tout le quartier lui criaient en le voyant passer, « Hey, est-ce que la nuit tu couches avec ta casquette ?»
Donc fin 19e, on est sur cette position de savoir-vivre où les femmes et les hommes, en portant ce type de chapeau, ben on situe tout de suite la position sociale, quoi, en fait.
Un immense canotier là devant.
Un immense canotier, oui. Ben ça, c'est un clin d'œil. Voilà, c'est un clin d'œil en fait. Alors pas au feutre du coup, mais à cette idée de cette période, voilà, début 20e, où on porte des grands chapeaux, essentiellement pour les dames. Et on a voilà un exemple, une évocation des chapeaux de femmes réalisés en différentes matières, mais surtout ce qui est intéressant, c'est la dimension. On est sur des grands chapeaux, parce que cette époque-là, il faut montrer son élégance, sa puissance, et ça passe par la grandeur. À cette époque-là, en termes de société, la femme est le faire-valoir de l'homme, donc dans les différentes soirées, ou même dans les après-midi, où on changeait plusieurs fois de tenue pour les dames, dans la journée. Et c'était une manière de se démarquer et de montrer son rang social. Alors, au centre de cette galerie mode, on a ici une reconstitution. Alors c'est même une interprétation à partir, vous voyez, d'un bâti de machine à coudre, de rouleaux aussi métalliques. On a une vitrine qui émerge et en fait c'est une protection pour les premières voitures sans pare-brise. Vous voyez, donc il y a eu un concours de chauffeuses pour essayer de trouver une solution alors qu'on avait ces voitures qui se développaient. Ces automobiles, plus exactement, et comment faire pour se protéger à la fois des moustiques et de la poussière, alors qu'on n'avait pas cette protection qu'on connaît tous aujourd'hui. Et il y a eu cette possibilité là qui a émergé de se dire, eh ben, faisons un chapeau qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la vareuse des
apiculteurs.
Apiculteurs, tout à fait. Donc avec cette protection en tissu total et devant avec une partie vitrée, un plexi, qu'on dirait.
Une sorte d'écharpe qui voilà. Finit frangée.
Voilà, tout à fait. Après, il y a un côté esthétique pour donner quelque chose qui soit beau aussi. Alors ici, on est barré par une très belle vitrine qui correspond à une... Là, c'est une vitrine de chez Fléchet, dans l'ancien showroom, là où nous sommes, enfin, le bâtiment à côté. Vous aviez le showroom qui présentait les collections de chez Fléchet. Voilà le type de chapeau. Alors essentiellement, vous avez un certain nombre de pièces de chapeaux coloniaux où on retrouve, vous voyez, la circulation de l'air, notamment sur la partie supérieure, ou alors avec des petits trous comme ça. Les chapeaux de Catherinette.
Eh oui.
À 25 ans, à la Sainte-Catherine.
Toujours vert et jaune.
Toujours vert et jaune, voilà. Ben, ça fait partie des symboles, là aussi. À la Sainte-Catherine, les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées à 25 ans. Donc on leur prépare ce chapeau qui regroupe le trait de caractère, les centres d'intérêt et qui présente
le métier
et qui permet de dire, c'est aussi une opération de com, je suis disponible. Et pour les hommes, c'est Saint-Nicolas. Mais c'est à 30 ans, les hommes.
Ouais. On est en face de la vitrine des chapeaux de curé. Juste là,
voilà, les chapeaux de curé.
Longtemps dessus, mais c'est juste pour dire qu'à Chazelle, il y avait au moins une usine qui était l'usine Blanchard et qui était spécialisée. Donc dans les chapeaux melons et dans les chapeaux de ecclésiastiques.
Alors on passait plus vite parce que s'il y en a beaucoup de vitrines, mais on s'approche. Bon, il y a les chapeaux de deuil, bien sûr. Ça fait partie de la panoplie en fait de tous les chapeaux et qui correspondait là aussi à une codification très particulière. En fonction du deuil, bien sûr, et de la proximité de la personne décédée. Voilà, juste à côté, vous avez les chapeaux d'enfants, ça commence très tôt. Ce qu'il faut retenir des chapeaux d'enfants, c'est que c'était l'équivalent des chapeaux d'hommes, mais adapté aux enfants, dans le sens à la taille, mais c'est les mêmes types de chapeaux. Très tôt, dès l'enfance, on
On portait le chapeau, on portait les différents types de chapeaux. On était en lien avec la... C'était codifié par rapport à la classe sociale des parents. Enfin bon, tout était déjà en place, en fait. Hein. Et on termine, et ça nous ouvre sur la boutique, l'accueil boutique, là où on était tout à l'heure. Vous avez les chapeaux de créateurs, donc les chapeaux contemporains. Donc créateurs modistes et créateurs de maisons de haute couture également. Donc là, on peut s'approcher de cette vitrine, là, où on a en fait une sélection de chapeaux dans le cadre d'un concours qu'on organise, un concours international de chapeaux, tous les deux ans, qui s'appelle les Rencontres internationales des arts du chapeau. Et vous avez ici les premiers prix de ces rencontres. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des chapeaux donc qui sont liés à un thème que nous, on définit, et on demande aux créateurs d'envoyer un chapeau. On fait une exposition, un défilé, et ces dernières années, on est soutenu par le grand Stephen Jones, qui est un grand créateur international, qui vient présider le jury, qui vient remettre les prix. Donc le côté international et local aussi.
Rue de Rivoli, un monsieur poli entra dans une chapellerie. Une vendeuse jolie a couru vers lui. Le monsieur poli gentiment lui dit: ce serait pour un feutre. Un feutre gris, vous voyez ce que je veux dire.
Coup de chapeau au musée du chapeau de Chazelles-sur-Lyon, ouvert du mardi au dimanche. Tous les renseignements sur lemuseeduchapeau.com. Merci à Yvan, Didier, Jackie, Elliot. Un reportage réalisé par Philippe Fest à retrouver sur rvrradio.fr.
L'emballer dans un petit sac en papier. Merci.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la Fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.